Showtime arrive sur Radio Larzac.
Ok, on y va. Showtime, générique, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Showtime, votre émission du partage de la passion de la culture du cinéma, de la pop culture et des cultures de l'imaginaire sur Radio Larzac. Pour cet épisode du mois de mai, fais ce qu'il te plaît, je vous propose un menu, un programme qui n'est pas sans trop changer par rapport à ce que j'ai l'habitude de vous proposer habituellement, car oui, l'actu sera au programme, hein, suivra ensuite quelques suggestions vinyles. Puis, vous aurez droit à un avis sur le jeu vidéo Resident Evil Village, ainsi qu'à un focus sur les web-séries, même si je vous parlerai éventuellement plus de la web-série Magenta. Mais j'en dis pas plus, car oui, Showtime saison 8, épisode 8, c'est parti! Bon, je vais pas trop m'étaler en blablablate là, puisque, bon, vous allez le comprendre avec l'actu, mais oui, ça y est, les salles de cinéma vont enfin pouvoir rouvrir. Mais à quel prix ? Ça, je vous laisse le découvrir dans l'actu.
L'actu du mois.
Alors, ce mois-ci, dans l'actu, j'ai un petit peu revenir sur la dernière nouvelle en date, parce que là, lorsque vous m'écoutez, nous sommes techniquement le jeudi 13, et les salles sont prévues pour ouvrir le 19 mai prochain. Ah, hein, cocorico, soyons contents. Mais bon, des salles ouvertes seulement au départ à 35% de leur capacité, les chiffres de possibilités au public de rentrer plus nombreux augmenteront au fur et à mesure des étapes du déconfinement. Mais ici, ce dont je tenais à vous parler, c'est que déjà 35%, c'est assez peu, mais comment les salles de cinéma vont pouvoir gérer 35% face à l'embouteillage cinématographique qui se profile à l'horizon? Car oui, de nombreux films se profilent et à savoir justement si certains de ces films qui sont sortis directement en VOD, faute d'avoir de possibilités de sortie en salle, je pense par exemple au film Godzilla vs Kong ou encore à Mortal Kombat, qui sont sortis en VOD, est-ce que ces films sortiront pour l'occasion également en salle ? Bon, là, je n'ai pas de réelle réponse à cette question, mais je peux tout de même vous apporter un planning des grosses sorties à venir. Alors, le 9 juin, Conjuring 3 sous l'emprise du diable, Sans un bruit 2 le 16 juin, Cruella le 26 mai, mais Cruella je me demande si ça va pas sortir en même temps sur Disney+, j'ai un petit doute, Black Widow 7 juillet, là aussi je crois que ça sort en même temps sur Disney+, Les Croods 2, Une Nouvelle Ère le 7 juillet, Fast and Furious 9 le 14 juillet, Space Jam, Une Nouvelle Ère le 14 juillet, Kaamelott, premier volet, enfin on va pouvoir le voir le 21 juillet. Old, le 21 juillet. Ça, c'est pas le film de M. Night Shyamalan. Ah, si. Il a l'air intéressant celui-là. À l'occasion, je vous en reparlerai. Spiral, l'héritage de Saw, le 21 juillet. The Suicide Squad, 28 juillet. Jungle Cruise, 28 juillet. Chaos Walking, 4 août. OSS 117, alerte rouge en Afrique noire, le 4 août. Free Guy, le 11 août. Voilà pour certaines des sorties qui sont appelées à arriver, des grosses sorties majeures notamment. Et c'est vrai que ça fait pas mal, hein. Au moins ça donne envie d'aller en salle. Problème, c'est que là encore on se heurte par rapport à certains choix de diffusion de par les grands majors du cinéma, qui est de proposer certains de ces films autant en salle qu'en SVOD, hein, vidéo à la demande payante, SVOD c'est streaming VOD, j'ai un petit doute là, j'ai un petit trou, enfin bref, vous comprenez l'idée. J'espère que ça va pas faire défaut à la sortie de ces films, surtout lorsque l'on apprend que la Paramount est en train de mettre les bouchées doubles avec Paramount+, et que justement il y a certains de ces films qui, un peu comme HBO Max, même s'ils ont fait machine arrière, mais certains des films de la Paramount sortiront en exclusivité, limite presque, sur leur système de vidéos de SVOD. Donc les cinémas, certes il y a du mieux, mais on n'est pas encore sorti de l'auberge. Après, pour ce qui est de la des quelques news d'actu que j'ai pu relever, il y en a bien quelques-unes, notamment moi en grand fan, hein, j'ai appris dernièrement qu'il y a un nouveau film Dragon Ball, hein, qui est dans les cartons, qui devrait être annoncé sûrement très prochainement, mais c'est Akira Toriyama qui, au cours d'une interview, a balancé l'information, car oui, au cours du Goku Day, Toei célèbre le Goku Day avec l'annonce d'un nouveau film Dragon Ball Super pour 2022. Alors, Goku Day, comment vous l'expliquer? C'est... Je crois que c'est un peu comme le 4 mai, vous savez, c'est May the Force Be With You, c'est un jour qui est dédié à Star Wars. Et au Japon, Goku Day, c'est parce que Go et Ku, ça correspond au 9 mai là-bas. Voilà, grosso modo, j'espère pas avoir dit de bêtises sur ce point-là. Et pour ce mois-ci, moi je tenais à vous partager la bande-annonce d'une série d'animation que j'apprécie. Ah mince, j'ai oublié de vous parler de Red Sonja, parce que oui, ça y est, on a l'actrice qui va jouer Red Sonja. Que je vous la retrouve. La news, elle est ici. C'est Anna John Kamen, qu'on a pu voir dans Ant-Man et la Guêpe, dans le rôle du fantôme de The Ghost, qui a été choisie pour jouer la guerrière à la crinière de feu qu'affronte Conan le barbare dans les romans de Robert E. Howard. Donc moi j'en dis pas plus, je vous propose d'écouter la bande-annonce de Castlevania saison 4, la dernière saison de Castlevania saison 4, une série Netflix qu'il me tarde de découvrir. Mais avant de vous en dire plus, je vous laisse en profiter. This is where it all started. Everything has led us here. Which means we are here for a reason. All right, where would you like to start? The whole world's gone crazy. We've lost many people to night creature attacks. Will you help us? I'm sure I can do something for you. Sisters, Hector is finally ready to start making night creatures. We could take the entire world for our own. It's a spell. It will have the name of the person he was trying to bring back from the dead. Oh, let me guess. It decodes as Vlad Dracula Tepes. Why the fuck would anyone do that? Huh? Would you do that? I wish I could fucking kill you twice! We killed Dracula. And now we have to spend the rest of our lives making sure nobody brings him back from the dead. When I began this journey, I had a very simple plan. That plan has evolved. The plan is now conquest. Kill everything you see. Begin! Yeah!
all know. But when's that ever stopped us?
You know me. I'm going to eat your soul.
Vous venez d'écouter la bande-annonce de Castlevania, d'une série Netflix dont je vous lis le synopsis. Lorsque sa femme se fait brûler vive, accusée à tort de sorcellerie, le vampire Vlad Dracula Tepes déclare qu'il prendra sa revanche sur le peuple de Valakia. Aidé du magicien Sifa Belnades et du propre fils de Dracula, Alucard, le chasseur de démons Trevor Belmont lutte contre la terreur qu'il instaure. Franchement, cette série, moi, je la trouve superbe sur beaucoup d'aspects. Notamment, graphiquement, elle est très belle. Mais là où elle fait fort, c'est que la saison 1 est une saison d'exposition, mais après, l'histoire est superbement bien écrite. Faudra, lorsque je l'aurai terminée, je pense que j'aurai vu la dernière saison, donc je risque de vous en parler le mois prochain dans l'épisode final de Showtime, de cette saison 8 de Showtime. Mais ouais, il faudra que je vous en parle parce que c'est superbe au niveau de l'histoire, de certaines thématiques, de l'aspect graphique, des musiques. Enfin, franchement, c'est du super taf et ça montre que il y a encore beaucoup à faire et on risque d'être encore pendant très longtemps, je pense, bluffé par ce qui peut se faire au niveau de l'animation classique. Car oui, là c'est vraiment dessin à la main, c'est vraiment dessin animé, c'est pas de la 3D ou quoi que ce soit. Enfin voilà, rendez-vous donc, c'est ce jeudi en plus que sort la saison 4 de Castlevania. Donc moi je suis au rendez-vous pour la regarder et je ne manquerai pas, lorsque je l'aurai visionné, de vous en parler. Ceci étant dit, je blablate, mais il faut continuer avec les suggestions.
Les suggestions.
Ce voici. Dans les suggestions, je tenais à vous parler vinyle, avec le vinyle de la bande originale de Drag Me to Hell de Sam Raimi. C'est un film de Sam Raimi, Jusqu'en Enfer, qui est sorti en 2009. Et la bande originale est de Christopher Young. Et c'est pas la première fois que les deux messieurs collaborent ensemble. Alors, pour vous situer un petit peu l'histoire, je vous lis vraiment ce qu'il y a écrit à l'arrière du vinyle. Bon, je vous le traduis parce que c'est en anglais. Mais Kristen Bourne a un superbe boulot. Un super copain et un avenir radieux. Mais dans 3 jours, elle ira en enfer. Franchement, c'est quelques lignes, ça résume superbement bien ce film de Sam Raimi qui, alors, revenait à l'horreur après avoir fait la trilogie Spider-Man. Et franchement, il match, ce film, il est superbe sur tous les plans. Franchement, Sam Raimi, c'est un maître de l'horreur. Puis c'est même lui, à la base, avec les Evil Dead, qui a inauguré tout un genre. L'horreur à l'humour noir, si l'on peut dire. Quelque chose qui se développe un peu plus avec les suites de Evil Dead. Mais ouais, mais là où c'est fort également, c'est la musique de Christopher Young, parce que là, il y a un petit mot de remerciement dans le vinyle qui explique justement à Christopher Young le pourquoi du comment de cette musique, et aussi que là, il a pu se lâcher, vraiment, il a eu un peu carte blanche pour essayer de faire la musique la plus puissante, si l'on peut dire, pour la plus puissante possible pour un film d'horreur, ce qui a été le cas, et notamment l'usage du violon. Et lorsque l'on lit les quelques lignes qu'il y a décrites sur l'usage du violon, on lit le violon, instrument du diable, tout ça. Et là, j'étais là, ouais, mais qu'est-ce que c'est ? Je savais pas que le violon avait été associé à ça. J'ai fait quelques petites recherches, et oui, pendant un bon moment, de par une sorte de non-compréhension par rapport à cet instrument, et jusqu'à ce qu'il arrive dans les églises, l'instrument était un petit peu associé au diable qui en jouait pour attirer des âmes en enfer, ce genre de choses. Ce qui correspond en soi. Match encore plus avec ce qui nous est proposé dans les musiques de ce vinyle et de ce film. Franchement, du coup, c'est un vinyle qu'on peut retrouver chez Waxwork. Ouais, Waxwork. Et moi, je vais vous en passer un extrait, Franck, parce que j'hésite entre un extrait qui joue avec la poésie ou un truc un petit peu plus sordide. Mais pour aller dans la simplicité, je pense vous proposer le thème principal, hein, Drag Me to Hell. C'était Drag Me to Hell de Christopher Young. Je ne sais pas comment vous avez trouvé cette musique. Après, il y a une différence, je trouve, avec les musiques que l'on peut entendre de version classique numérique ou en CD, que sur un vinyle. Avec le vinyle, j'ai eu l'impression qu'il y avait une sorte de lenteur qui rajoute justement au côté effrayant, au côté angoissant de ces partitions. Donc je sais pas si c'est propre au vinyle ou si c'est comme ça qu'à la base elles devaient être les musiques, mais franchement, superbe, superbe. Après, si vous aimez la version Drag Me to Hell, je vous renvoie vers la musique finale Concerto to Hell. Elle, par contre, elle envoie, hein, là, superbe. Même toute la bande originale de ce film, hein, on jongle vraiment entre horreur et poésie. C'est un parfait mélange. Surtout les musiques qui sont propres à Christine Brown, elles sont superbes. Une légèreté, mais franchement, moi, c'est une des bandes originales. Lorsque j'ai besoin de me détendre un petit peu, j'adore écouter. Ça me détend. Je vais pas en dire plus, je vous propose qu'on passe à la vie.
La vie.
Sur. Alors ce mois-ci, dans la vie, on va aborder une thématique un petit peu plus mainstream, si je puis dire, puisque je vais vous parler jeux vidéo. Oui, c'est vrai, ça fait un petit moment, mais vous n'êtes pas sans savoir si vous êtes habitué de l'émission et si vous me connaissez personnellement depuis longtemps, mais je suis un grand fan de la saga Resident Evil. C'est en partie grâce à un cousin que je me suis plongé aussi dans le cinéma d'horreur, hein. C'est lui que je remercie, hein, que je remercierai assez jamais pour tout ça, mais il m'a amené au cinéma à voir le premier Silent Hill, du coup j'ai adoré, il m'a passé quelques films d'horreur, dont le premier film Resident Evil de Paul W.S. Anderson. Bon, après on peut critiquer, ce n'est pas le propos de cette émission, mais ça m'a donné envie de m'intéresser au matériel de base, le jeu vidéo qui est sorti en 1996, et qui fait quand même les beaux jours de comme depuis un moment, puisque, ben oui, cette année, la saga fête tout de même ses 25 ans. Et quoi de mieux pour fêter les 25 ans que de sortir un nouvel épisode chiffré à cette série horrifique. Donc c'est comme ça que le 7 mai dernier nous est sorti Resident Evil Village, soit Resident Evil 8. Tout un jeu qui se présente avec le synopsis que voici. Après le terrible drame qui a déchiré sa famille, Ethan Winters ne reculera devant rien pour récupérer sa fille. Mais à quel prix ? Huitième épisode de la saga référence du Survival Horror. Affronter d'effroyables ennemis inédits dans des lieux mystérieux et inconnus. Un jeu d'action survie qui ne vous laissera pas indemne.
As the midnight moon rises on black wings, we await the light at the end. In life. And in death, glory to Mother Miranda.
Quit your whining. We're almost there.
Rose, where are you?
Hello. If there are any survivors out there, come to my... to Louisa's house near the fields.
Long, long ago.
Oh no! They're coming. Who is? What the hell was that?
Stop shouting. You'll draw the monsters!
Tell me what is going on around here.
It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us.
You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are.
Is this all that's left? From your entire village?
All that's left? There is no one left!
We can bust out with this.
Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin!
There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half!
Tomorrow we'll all be dead.
No, let me go!
Chris? What the hell? Why?
Ethan Winters.
Mr. Winters.
Ethan Winters.
Ethan. Poor Ethan.
Ethan Winters. Welcome.
Get off of me!
Stay the fuck down!
I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now.
You killed Mia. Now do me and finish the job.
Tout un synopsis donc pour ce jeu vidéo qui est franchement bouleversant. Le jeu est la suite directe de Resident Evil 7 Biohazard. Resident Evil 7 Biohazard nous faisait faire la rencontre de Ethan Winters qui partait à la recherche de sa femme en Louisiane, au domaine d'Elvey. Partait en Louisiane à la recherche de sa femme au domaine d'Elvey. Parce qu'elle avait quand même disparu depuis quelques années. Et d'un coup, du jour au lendemain, pan, ah, je suis là, viens me chercher, tout ça. Donc il s'y rendait pour faire face à moult abominations et bien entendu... À un virus, hein, c'est propre à la saga, la moisissure, qui au final, une péripétie, oui, bien rude, qui allait bouleverser par la suite sa vie. Bon, pour ce Resident Evil 7, la saga prenait un peu un virage à 180 degrés, si ce n'est plus, puisque cette fois-ci, on se retrouvait en jeu à la première personne, c'est-à-dire que vraiment, c'est comme si on était dans la peau du personnage, et c'était un aspect qui était justifié par l'utilisation des casques de réalité virtuelle. On pouvait faire l'aventure Resident Evil 7 avec des casques de réalité virtuelle pour un résultat plus que effrayant, voire déroutant. Et... suite à tout cela, ben, qu'allait-il advenir de la famille Winters? La famille Winters, ben, elle s'est installée en Europe de l'Est suite au conseil de Chris Redfield que l'on pouvait entreapercevoir dans la fin du précédent opus. Et qui, depuis, les supervise un petit peu. Cependant, ben, du jour au lendemain, allez savoir pourquoi, Chris et son équipe lancent un assaut chez la famille à la maison de Winters pour abattre froidement Mia et enlever sous les yeux de Ethan sa fille Rose. Pourquoi ? Comment ? Tout ce que l'on sait, c'est qu'au cours de notre acheminement vers le poste d'opération de Chris, on a un accident et Rose a disparu ainsi que le corps de notre femme qui était à l'intérieur. Donc ce pauvre Ethan, il va un petit peu essayer de s'en sortir et il va arriver dans un village lugubre, plus que lugubre, hein, puisqu'il va y apprendre qu'une certaine mère Miranda, secondée de 4 nobles, pas sème la terreur, mais ils font loi, et ce sont eux qui sont responsables de l'enlèvement de notre fille. Du coup, on va devoir la retrouver au cours de l'aventure. Une aventure qui va se découper en plus ou moins, on va dire, entre 4 étapes, hein, un cheminement qui se répartit entre chaque confrontation aux différents nobles que sont Dimitrescu, Benebiento, Moreau, Heisenberg, et pour finir, hein, une confrontation face à Mère Miranda. Bon, c'est pas du spoil, hein, c'est la suite logique des choses. Mais du coup, cette aventure, comment se présente-t-elle? Bon, on reprend la même recette que Resident Evil 7, jeu à la première personne, avec les mêmes gimmicks, hein, c'est-à-dire possibilité de se protéger, possibilité de crafter des munitions, enfin de les construire avec des éléments qu'on peut venir retrouver dans le décor, possibilité de trouver des trésors, de détruire des chèvres protectrices, hein, un peu comme les bobbleheads qu'on pouvait trouver dans Resident Evil 7. Mais ouais. Le gameplay est à peu près le même et le moteur graphique est le même, bien que sublimé. Le RE Engine fait vraiment des merveilles, hein. Après, au niveau de la musicalité, franchement, elle est très bien. Il y a des partitions qui sont vraiment flippantes, même si par moment, je retiens surtout un passage, hein. Je vais pas vous le spoiler, mais j'étais vraiment pas du tout serein tout du long de ce passage. Après, en soi, l'histoire, elle arrive à rejoindre, hein, ce qui s'est eu fait précédemment, hein, dans les Resident Evil. Elle arrive à bien attraper les wagons, on pouvait se poser des questions au pourquoi du comment de Lycan, vampire, ce genre de choses, mais au final, c'est bien expliqué, ça rejoint l'esprit de la saga, sans trop vous en dévoiler. Et pour ce qui est de certaines thématiques, bon, après, c'est Resident Evil, hein, ça n'a jamais cassé 3 pattes à un canard au niveau de l'histoire, mais là, au moins, il y a un côté familial dans le récit, hein, ça rejoint un petit peu ce qui s'était déjà fait précédemment avec Ethan face à la famille Baker, mais ici, la famille a quand même un rôle à part entière, et c'est intéressant comme c'est présenté. À voir comment ça pourra évoluer avec le Resident Evil 9 qui laisse quand même une porte ouverte à la continuité des aventures de la famille Winters. Je pense pas trop m'étaler plus sur ce Resident Evil 8. C'est un exercice, hein, de vous parler d'un jeu vidéo à la radio, mais ça, j'y prends plaisir. Je pense notamment avec tout ce qui aurait pu se faire par rapport aux thématiques pharmaceutiques, etc. Monopole pharmaceutique qui créait des choses étranges, tout ça. Enfin, ça aurait pu faire part de Resident Evil dès le départ comme thématique de fond. Ça ne s'est pas fait. Peut-être que ça se fera avec le film Resident Evil Welcome to Raccoon City, qui est un cinématographique du cinéma et qui est prévu pour fin d'année 2021. Donc, franchement, il y aurait à parler sur la saga Resident Evil. Pour cela, il y a aussi pas mal de bouquins qui permettent d'expliquer en long, en large et en travers son histoire, ses thématiques et bon nombre d'aspects comme le gameplay, la musique, etc. Je vous en avais parlé d'un, c'est Resident Evil, des zombies et des hommes aux éditions Third Edition. Je vous renvoie dessus. Là, dernièrement, il en est sorti deux autres à l'occasion des 25 ans de la saga. Faudrait que je me renseigne un petit peu plus sur ces bouquins. Si j'arrive à en choper un et à en lire deux, trois choses intéressantes, pourquoi pas vous en parler pour les dernières suggestions de l'émission. Mais en tout cas, oui, sachez qu'un jeu vidéo, même sous ses premiers aspects, ça peut aller plus loin que l'on peut y penser.
The dark.
C'était Yearning for Dark Shadows de Aga Ujima avec Boyan d'Olibera. Franchement, cette musique qui reprend certains aspects du conte Le Village des Village of Shadows, Le Village des Ombres, qui fait partie qui a une place centrale hein, dans le récit de Resident Evil Village, je la trouve superbe, le côté enfantin, horrifique. Ouais, c'est aussi dans la droite lignée de ce qu'a pu être proposé avec Go Tell Aunt Woody hein, de Resident Evil 7 Biohazard. Bon, je m'étale pas plus sur Resident Evil, je pense en avoir déjà assez dit. Je vous propose un petit focus sur les web-séries.
Focus sur...
Alors, comme je vous l'avais présenté dans le programme de cette émission, je tenais cette fois à vous parler web-série dans le focus. Bon, même si, comme j'ai pu le présenter, je vais plus ensuite rebondir sur la série Magenta de Lina Produsos. Enfin, Lina Production, on va dire, grossièrement, hein, c'est une web-série brésilienne. Mais avant toute chose, les web-séries, c'est quoi ? Ben, c'est une série de vidéos composées sur Internet. Elles naissent souvent sur des sites d'hébergement de vidéos. À l'origine produite par des semi-professionnels avec des faibles moyens, les web-séries connaissent aujourd'hui une montée en gamme liée à l'explosion du genre sur la toile et à sa popularité auprès d'un jeune public. Donc oui, la web-série, ben oui, c'est une série proposée sur Internet, grosso modo. Et c'est vrai qu'en France, le genre s'est popularisé autour des années, on va dire vers 2008, hein, avec des web-séries comme Noob, Flanders Company, Le Visiteur du Futur, et ça n'arrête pas de monter crescendo. Même il y a quelques grands groupes hein, qui essayent de s'y mettre également, hein, et qui amènent des fonds hein, pour également aider certaines de ces web-séries à continuer. Là où certaines, par exemple, arrivent à très bien s'en sortir, un petit peu comme la série Noob, qui a fait un crowdfunding il y a quelques années et qui a quand même récolté plus de 680 000 euros hein, pour permettre hein, la création d'une trilogie cinématographique qui a été diffusée au Grand Rex. Si je dis pas de bêtises, je sais plus si ça avait été diffusé ailleurs. Enfin bref, tout pour dire que là c'est un petit peu comme être youtubeur. Tout ne sort pas. Enfin comment dire. Bien qu'il peut y en avoir de qualité, mais par rapport à certains monstres qui sont là depuis un moment, ben c'est un petit peu difficile de tirer son épingle du jeu. C'est un petit peu le cas qui est arrivé à Amélia et le mystère du lycée de Lerne. Ça, je pense que je vous en avais parlé dans une émission passée de Showtime. Une petite web-série française qui avait l'air toute sympa, hein. Mais le problème, c'est que eux, ils ont balancé de suite un épisode pilote et ils ont demandé un crowdfunding pour pouvoir amener le reste de la série. Et là, ça s'est un peu plantouillé. Après, l'une des forces des web-séries, c'est que, outre, certes, il faut arriver à se démarquer, c'est qu'elles permettent, comme il n'y a pas tous ces grands médias derrière ou autres, d'apporter des thématiques qui sont intéressantes et qui sont quelque peu, on va pas dire novatrices, mais ça serait difficile, ouais, voilà, de les faire passer, par exemple, sur une grande chaîne de télévision sans que le propos ne finisse vulgarisé. C'est pour ça qu'on trouve pas mal de web-séries autour ben, du monde LGBT. Lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, enfin à l'anglaise, hein, même si j'ai sûrement un accent à couper au couteau et que je vous fais une traduction à couper au couteau. Enfin, lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, voilà, LGBT. Et on trouve des web-séries qui traitent de ces thématiques-là. Et c'est notamment, je vous en passe certaines, mais il y a par exemple le projet Vénus qui devrait arriver prochainement, une web-série française, Control, il y a aussi The Y Theory, et il y a également du coup les productions de Lina Produsos. Excusez mon portugais, hein. Mais ouais, moi j'aime beaucoup ces web-séries. Moi je m'intéresse beaucoup, ben oui, à ces thématiques-là, hein, des thématiques qui me sont chères et que je soutiens. Et pour mieux comprendre, ben, des fois, Oui, ce qu'il en est, ben, regarder ces web-séries-là, ça permet d'avoir un regard sur certaines thématiques et difficultés que la communauté LGBT peut venir à affronter. Là, par exemple, avec Magenta de Lina au Producers, on en est à la saison 2, et la saison 1, elle, qui traitait beaucoup de relations entre Nina, Manuela, Rafaela, une sorte de triangle amoureux, la saison 2 va au-delà, puisque la saison 1 se terminait sur un cliff de fin. Ils ont tenté de faire un crowdfunding là pour apporter des moyens technique un petit peu plus poussé pour faire la saison 2. Malheureusement, le crowdfunding s'est planté. Mais ce n'est pas ça qui les a arrêtés. Ils sont allés au bout de leur vision en proposant tout de même une saison 2 à Magenta qui, là, apporte quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que le couple de Nina et Manuela découvre au final, on sait ce que c'est la lettre qui arrive à la fin de la saison 1, c'est l'accord pour pouvoir adopter. Et du coup, ça amène une nouvelle dynamique de voir cet enfant, Felipe, son rapport avec justement Nina, Manuela, le fait que à l'école, il subit les brimades de certains de ses camarades de classe, comme Nina, Manuela, qui doivent aussi s'habituer avec cet enfant dans leur couple, sans parler des ombres du passé, Rafaela et d'autres ex dont l'ombre plane et qui pourraient bien bouleverser ce couple qui veut vraiment aller de l'avant se positionner, clarifier les choses et officialiser les choses. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais ouais, franchement, moi c'est ça la force que je trouve dans ce genre de web-série. Là, en plus, c'est beau, c'est élégant. Certes, c'est pas fifou au niveau film, mais ça se prend, c'est vraiment, c'est rafraîchissant, et ça change justement des grosses productions qu'on a trop l'habitude de voir, et ça donne envie de découvrir aussi davantage de web-séries, de choses dans ce registre-là, d'être plus à même de comprendre la communauté LGBT. Enfin voilà, moi c'était un petit discours que j'avais comme ça à faire sur les web-séries, sur Magenta que je vous recommande. Je vais faire un petit peu le curieux par rapport à certaines là, ces web-séries LGBT dont je vous ai nommé quelques noms. Mais ouais, franchement, il y a beaucoup à faire sur Internet, et c'est comme on discutait avec quelqu'un dernièrement, mais des fois, il faut savoir regarder, on peut trouver des perles, et il faut aussi savoir aller outre. Faut pas s'arrêter aux premiers abords et aux premiers préavis. Là, je reviens un petit peu sur ce que je disais un peu par rapport à Resident Evil, les thématiques, ce genre de choses. Enfin bref. Je pense qu'il y aurait encore beaucoup à dire, etc. Mais le temps passe et il va falloir bientôt que l'on se quitte. Mais avant que cela se fasse, je vous passe une dernière petite musique.
Como não lembrar teu sorriso quando só você chegar, como não lembrar da cor do teu vestido quase azul? Invade meu habitat. Te quero bem, te quero bem, te quero já. Me faço zei da cor do céu pra me acalmar da saudade. Sorria.
eu sinto seu marajá. Te quero bem, te quero bem, te quero já. Me faço zen da cor do céu pra me acalmar e não te comparar com ninguém. Teu jeito é de um jeito que nenhuma outra tem. Parece que carece do carinho de alguém. Eu quero te ensinar, meu bem. Não vou te comparar com ninguém. Teu jeito é de um jeito que nenhuma outra tem. Parece que carece do carinho de alguém. Eu quero te ensinar.
C'était tout que ça de Zena. Ben, c'est le générique hein, de Magenta. Je crois que je l'ai déjà passé dans Showtime, mais pff, pas grave. C'est plaisir, c'est cadeau, ça fait zizir. Voilà, ben, je pense avoir dit ce que j'avais à en dire. Hein. Cet épisode de Showtime touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. C'est vrai que une heure de temps par rapport à tout ce que je vous propose, c'est un peu chaud, mais en même temps, c'est intéressant de synthétiser les choses, parce que vous pouvez m'écrire, hein, que ce soit pour des avis, suggestions ou quoi que ce soit, du moment que c'est dans la joie et dans la bonne humeur, vous pouvez m'écrire, tout comme vous pouvez m'écrire pour parler des sujets que je peux venir à aborder. Pour ça, c'est simple, showtime.radiolarzac@gmail.com ou showtime@radiolarzac.org. Car oui, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à débattre, tout ça. Moi, j'aimerais beaucoup échanger avec vous, auditeurs, tout comme avec d'autres personnes qui font des émissions radio. Hein. Je pense qu'il y aurait matière à faire avec le vaste monde qu'est le cinéma, de faire des rencontres entre plusieurs émissions. La pop dans le cinéma, pourquoi pas? Le métal dans le cinéma, aussi. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Les mythes et les légendes dans le cinéma, également. Voyez, il y a de quoi faire. Surtout que c'est un superbe média. Donc, soutenons notre culture, la pop culture, l'art et les cinémas. Ceci étant dit, je vous remercie, vous auditeurs, pour m'avoir écouté. Je remercie Radio Larzac pour continuer de me diffuser et de continuer à donner sa chance au mainstream. Ceci étant dit, j'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc, à la prochaine.